Chapitre 51. Des nouvelles arrivent à Caerienne. Alors qu'un filet de fumée bleue monta du fourneau de son brûle-gueule des plus ordinaires, Rand, une main posée sur la balustrade de pierre, contemplait le jardin au-dessous du balcon. Tandis que les ombres s'allongeaient, le soleil ressemblait à une boule rougeoyante sombrant dans un ciel sans nuages. Après 10 jours passés à Caerienne, c'était, en dehors du sommeil, le premier moment de tranquillité de Rand. Céland se tenait près de lui, les yeux levés pour le regarder, car elle se fichait du jardin. Bien que sa coiffure fût moins élaborée que celle des dames de plus haut rang, elle la grandissait quand même d'une bonne tête. Rand s'efforçait d'ignorer la jeune femme, et ce n'était pas facile quand la personne en question insistait pour presser contre son bras sa poitrine remarquablement ferme. La réunion s'éternisant, il avait résolu de prendre une petite pause. Une erreur grossière, avait-il compris, en voyant que Céland le suivait dehors.
« Je connais un étang très tranquille où nous pourrions avoir moins chaud, »
dit-elle.
« Un coin isolé, où personne ne nous dérangera. »
La musique de la harpe d'Asmodéan montait des arches carrées derrière eux. Un morceau léger et doux, pour une fois. Rand tira un peu plus fort sur son brûle-gueule. La chaleur. Rien de comparable au désert des Aïels, mais l'automne aurait dû être là. Pourtant, cette fin d'après-midi était hautement estivale. Un été sans orage. Dans le jardin, des hommes en bras de chemise arrosaient les plantes, choisissant cette heure déjà tardive pour limiter l'évaporation de l'eau. Mais pas grand-chose n'y faisait, et tous les végétaux crevaient. Ce climat ne pouvait pas être naturel. En fait, le soleil brûlant narguait Rand. Moiraine et Asmodéan partageaient cette opinion, mais aucun des deux ne savait que faire. Comme lui. En revanche, concernant Samael, il avait sa petite idée.
« De l'eau fraîche, »
murmura Céland.
« Et nous deux, enfin seuls. »
Bien que ça parût difficilement possible, elle se serra encore plus contre lui. Le jeune homme se demanda quand viendrait la prochaine provocation de Samael. Quoi qu'il fasse, pas question de réagir sur un coup de tête. En revanche, lorsqu'il en aurait terminé avec son rassemblement méthodique à Théard, il déchaînerait la foudre. Une frappe dévastatrice pour en finir avec le rejeté et ajouter Liliane dans son escarcelle par la même occasion. Avec Liliane, le pays de Théard, le Caerienne et une armée d'Aïel capable de conquérir n'importe quelle nation en quelques semaines, il...
« Vous n'aimeriez pas nager un peu ?»
demanda Céland.
« Moi, je me débrouille assez mal, mais vous pourriez m'apprendre ?»
Rand soupira. Un instant, il regretta qu'Avienda ne soit pas là. Mais non, il aurait détesté que Céland, couverte de horions, s'enfuit en courant ses vêtements déchirés. Les yeux mi-clos, Rand baissa les yeux sur la jeune femme et parla sans retirer de sa bouche le tuyau du brûle-gueule.
« Je peux canaliser le pouvoir. »
Céland scia et recula sans pourtant bouger un muscle. Les gens ne comprenaient jamais pourquoi il parlait de ça. Pour eux, c'était un sujet à occulter autant que possible.
« Il paraît que je vais devenir fou. Mais ce n'est pas encore fait. Enfin, je crois. »
Rand gloussa un peu bêtement, puis il reprit son sérieux, le visage de marbre.
« D'apprendre à nager. Je te ferai flotter avec le pouvoir. Mais le Saïdine est souillé, sais-tu ? L'œuvre du ténébreux. Son contact. Tu ne t'en apercevras pas, cela dit. Ce sera tout autour de toi, et tu ne sentiras rien. »
Cette fois, Rand se fendit d'un ricanement sifflant. Les yeux ronds comme des soucoupes, Céland arborait désormais un rictus en guise de sourire.
« Plus tard, alors. Pour l'instant, je veux être seul pour penser à... »
Rand se pencha comme s'il voulait embrasser sa compagne. Avec un petit cri, celle-ci se fendit d'une révérence si soudaine qu'il pensa d'abord que ses genoux s'étaient dérobés sous elle. La jeune femme recula, s'inclinant à chaque pas, assura d'un ton proche de l'hystérie que le servir était un honneur, et son plus cher désir, et finit par se cogner le dos contre une des arches. Sur une dernière et hâtive génuflexion, elle battit en retraite à l'intérieur du bâtiment et disparut de la vue du jeune homme. Avec une grimace, Rand se retourna vers la balustrade, effrayé des femmes. Mais s'il lui avait simplement demandé de le laisser seul, Céland aurait pensé qu'il voulait seulement différer le moment de... Pour s'en débarrasser, il aurait dû lui ordonner de rester à jamais hors de sa vue, et encore. Cette fois, l'histoire finirait peut-être par circuler. Il allait devoir mieux contrôler ses émotions. Ces derniers temps, il leur cédait un peu trop facilement les rênes. Ce devait être à cause de cette sécheresse contre laquelle il ne pouvait rien. De toute façon, partout où il regardait, les problèmes poussaient comme du chien-dent. Allons. Il allait s'accorder quelques instants de plus à tirer sur son brûle-gueule. Quel idiot accepterait de diriger une nation alors qu'il pouvait s'adonner à une occupation plus facile? Par exemple, transporter de l'eau au sommet d'une colline avec une passoire. Au-delà du jardin, entre deux tours du palais, Rand avait une vue imprenable sur Caerienne, les zones éclairées contrastant avec les zones sombres sur les collines, que la cité semblait dominer de toute son écrasante masse. Sur une des tours, son étendard rouge orné de l'ancien symbole des Aes Sedai flottait mollement au vent. L'autre tour arborait fièrement une copie plus grande de l'étendard du dragon. Ce drapeau aussi flottait sur une bonne dizaine de bâtiments, y compris la plus haute des tours inachevées, qui se dressait droit devant lui. Dans ce cas particulier, Sénervé n'avait pas eu plus de résultats coordonnés. Ni les Théariens ni les Caerieniens n'avaient cru qu'ils voulaient seulement un étendard de ce type. Quant aux Aiel, ils se fichaient de ce genre de choses. Même à cette heure et au cœur du palais, Rand entendait le perpétuel murmure d'une ville peuplée à exploser. Plus effrayés de retourner chez eux que de vivre près du dragon réincarné, tous les réfugiés étaient restés. Bien entendu, les marchands de tout poil avaient accouru, avides de vendre tout ce que les gens pouvaient se permettre d'acheter et d'acquérir à vil prix tout ce qu'ils ne pouvaient plus s'offrir le luxe de garder. À cela, il fallait ajouter les seigneurs et les soldats qui s'étaient ralliés à sa cause, les quêteurs convaincus que le corps devait se trouver non loin de lui, une dizaine de résidents de feu la ceinture, ou une centaine pour ce qu'il en savait, étant d'ailleurs prêt à en vendre autant de copies qu'il trouverait de gogo, les maçons ogiers venus du sanctuaire de Sofou en quête d'un travail à la hauteur de leur extraordinaire talent, et des aventuriers, certains étant des brigands reconvertis depuis une semaine, prêts à saisir au vol la moindre occasion de se remplir les poches. En ville, il y avait même eu une centaine de fils de la lumière, mais ils avaient filé au galop dès qu'il était devenu évident que le siège avait pris fin. Le rassemblement qu'avait ordonné Pedron Nial concernait-il Rand? Egwene lui fournissait certaines indications sur bien des points, mais quelle que soit son opinion personnelle, elle adoptait l'angle de vue de la Tour Blanche. Et Rand ne partageait pas du tout la façon de voir des Aes Sedai. Au moins, les caravanes de grains commençaient à arriver de Théar avec une encourageante régularité. À force, des gens affamés risquaient de se soulever. Rand aurait aimé pouvoir se réjouir simplement que des êtres humains n'aient plus l'estomac vide, mais les calculs de ce genre faisaient partie de sa charge. Le nombre de brigands diminuait et la guerre civile n'avait pas recommencé. D'autres bonnes nouvelles. Avant de pouvoir partir, Rand devrait s'assurer que les choses demeurent ainsi. Une multitude de problèmes à régler avant de s'occuper enfin de Samael. Sur les chefs de tribus auxquels il se fiait, ceux qui étaient venus avec lui de Rudéan, il ne restait plus que Rouark et Baël. Mais si les quatre tribus qui s'étaient jointes à lui récemment n'étaient pas dignes de confiance pour la longue marche vers Théar, pouvait-il les laisser sans surveillance aux Caerienne? Indirian et les autres avaient reconnu qu'il était le Karakarn, mais ils ignoraient tout de lui, et pour sa part, ils ne savaient rien d'eux. Le message reçu le matin même pouvait lui aussi annoncer un problème. La première dame de Mayenne, Berelaine, était à quelques centaines de lieues de Caerienne, en chemin pour le rejoindre à la tête d'une petite armée. Comment avait-elle fait pour traverser Théar ainsi? Il n'en avait pas la moindre idée. Étrangement, dans sa missive, elle demandait si Perrine était avec lui. Sans aucun doute, elle devait craindre que le dragon réincarné oublie son petit pays s'il ne lui rappelait pas son existence. En un sens, voir Berelaine jouer au chat et à la souris avec les Caerieniens pouvait être distrayant. Car elle était la dernière d'une longue liste de premières dames et de premiers sires qui avaient réussi, en excellant au grand jeu, à empêcher Théar d'annexer leur petite nation. Au fond, lui confier le Caerienne ne serait pas une mauvaise idée. Le moment de partir venu, s'il venait jamais, il comptait emmener avec lui Meilan et les autres Théariens. Tous ses soucis ne valaient guère mieux que ceux qui l'attendaient à l'intérieur. Tapotant la base du fourneau de son brûle-gueule, Rand le vida, puis il écrasa sous sa semelle les ultimes brins de tabac encore embrasés. Avec cette sécheresse, le jardin risquait de prendre feu comme une torche si on ne se montrait pas prudent. La sécheresse. Le climat anormal. Rand s'avisa qu'il venait d'émettre un grognement muet. La priorité, c'était d'agir là où il pouvait faire une différence. Cela dit, il eut un certain mal, avant d'entrer, à se recomposer une expression de chef serein et sûr de lui. Aussi bien vêtu que n'importe quel seigneur, avec des volants de dentelle au col, Asmodéan s'était adossé contre un mur sobrement lambrissé, et comme s'il était là pour son plaisir, il jouait sur sa harpe une douce mélodie. Les autres personnes présentes dans la pièce, toutes assises, se levèrent dès qu'elles aperçurent Rand, et se rassirent aussitôt lorsqu'il leur fit un geste agacé. D'un côté du riche tapis rouge et or, Meilan, Toréan et Arakom se pavanaient dans des fauteuils dorés et sculptés, chacun ayant derrière lui un plus jeune seigneur de Théar. Les Kerieniens étaient installés en face. Alors que Dobrein et Maringil avaient eux aussi un jeune seigneur derrière eux, chaque noblio ayant le devant du crâne rasé et poudré comme celui de Dobrein, c'était Céland qui jouait ce rôle pour Dame Colavaire. Blanche comme un linge, la jeune séductrice frémit quand Rand posa les yeux sur elle. Le visage de marbre, le jeune homme gagna son propre siège. À lui seul, ce fauteuil était une raison de contrôler ses expressions. C'était un cadeau de Colavaire et des deux autres, correspondant à ce qu'ils imaginaient être le style théarien. Selon eux, puisqu'il régnait sur Théar et avait envoyé des théariens ici, le dragon réincarné devait aimer le tape à l'œil. Et là, pour le tape à l'œil, il était servi. Les jambes sculptées du siège représentaient des dragons aux écailles rouges et jaunes, des émaux et des dorures, et aux yeux incrustés d'énormes tourmalines. Le bras et le dossier, eux aussi, étaient la copie fidèle de la créature qui ornait l'étendard du dragon. Pour fabriquer si vite ce chef-d'œuvre, des dizaines d'artisans avaient dû travailler jour et nuit depuis l'arrivée de Rand. Bien entendu, assis sur cette espèce de trône, il se sentait particulièrement idiot. Et pour ne rien arranger, Asmodéan, changeant de registre, jouait désormais un air des plus martiaux qui eût convenu à un triomphe. Pourtant, il y avait dans les yeux sombres des Kerieniens une méfiance toute nouvelle à l'égard de Rand, un sentiment qui se reflétait d'ailleurs dans le regard des Théariens. Ça avait commencé avant qu'ils sortent. En essayant de glaner des faveurs, avaient-ils tous commis une erreur dont ils mesuraient enfin la gravité? S'efforçant d'ignorer qui il était, tous ces nobles l'avaient traité comme s'il s'adressait à un de leurs jeunes pères qui les avait vaincus, mais qu'on pouvait amadouer et peut-être même manipuler. Le ridicule fauteuil, avec ses allures de trône, ramenait ces intrigants à la réalité, leur rappelant qui se tenait devant eux.
« Seigneur Dobrein, les troupes se déplacent-elles selon le plan prévu ?»
La harpe se tut à l'instant même où Rand prit la parole. Pour se donner une contenance, Asmodéan fit mine d'avoir besoin de l'accorder.
« Oui, seigneur dragon, »
répondit le seigneur au visage parcheminé. Un parangon de sobriété, cette réponse. Ne se faisant aucune illusion, Rand savait que Dobrein ne l'appréciait pas davantage que les autres nobles. Si l'occasion se présentait, il n'hésiterait pas à jouer son propre jeu. Mais pour l'heure, il semblait résolu à se montrer fidèle au serment qu'il avait prêté, et les rayures colorées, sur le devant de sa veste, étaient usées à force qu'un plastron frotte contre elles. Très grand pour un Kerienien et d'une extrême minceur, Maringil, aux longs cheveux blancs, se pencha en avant sur son siège. Son front n'était pas rasé, et les rayures, sur le devant de sa veste, ne portaient aucune trace d'usure.
« Seigneur dragon, nous avons besoin de ces hommes ici. »
Maringil cligna des yeux, comme si les dorures du trône l'éblouissaient, puis il chercha le regard de Rand.
« Il reste encore beaucoup de brigands en liberté. »
Maringil se radossa à son siège, la tête orientée de façon à ne pas devoir regarder les Théariens. Meilan et les deux autres s'autorisèrent un sourire.
« Sur mon ordre, les Aiels se chargeront des brigands, » répondit Rand.
En fait, les guerriers avaient l'ordre d'en finir avec tous les brigands qui croiseraient leur chemin, avec la stricte interdiction de se détourner de leur route pour traquer les hors-la-loi. Car même eux ne pouvaient pas s'offrir ce luxe tout en avançant à la vitesse requise.
« Il y a 3 jours, m'a-t-on raconté, des chiens de pierre ont tué quelques 200 bandits près de Morel. »
Soit à côté de la frontière méridionale la plus extrême revendiquée par le Kerien ces dernières années, à mi-chemin de la rivière Iralel. Mais il n'y avait aucune raison d'informer ces gens que les Aiels en question devaient avoir atteint la rivière à l'heure actuelle. Sur de longues distances, les guerriers étaient, au bout du compte, plus rapides que des chevaux. Maringil ne se laissa pas démonter.
« Il y a une autre raison. À l'ouest de la rivière Alguenia, la moitié de nos terres sont entre les mains d'Andorre. »
Le seigneur hésita. Comme les autres, il savait que Rand avait grandi en Andorre. Une kyrielle de rumeurs le présentait comme le fils d'une des maisons andoriennes, voire celui de Morgaz. Au choix, il avait été banni parce qu'il pouvait canaliser le pouvoir, ou s'était enfui avant d'être apaisé, Du coup, Maringill devait avoir l'impression de marcher sur des œufs.
Morgaz ne semble pas vouloir en annexer plus pour le moment. Mais nous devons lui reprendre ce qui nous appartient. Ses héros ont déjà proclamé son droit au...
Le seigneur se tut brusquement. Personne ne savait à qui Rand destinait le trône du soleil. Au fond, il pouvait très bien s'agir de Morgaz. Dame Colla Vaere scruta Rand de son regard noir. Très peu bavarde depuis le début, elle ne sortirait pas de son mutisme avant d'avoir appris pourquoi ses landes semblaient si déconfites. Soudain, Rand en eut assez des bavardages de nobles et des complications perverses du Daes Daimar.
Les prétentions d'Andorre concernant le Cairien seront à l'ordre du jour quand j'en aurai décidé ainsi. En attendant, ces soldats iront en Théar. Maringill, tu vas suivre le bon exemple du haut seigneur Meilan, un modèle d'obéissance. Et je ne veux plus rien entendre sur ce sujet.
Rand se tourna vers les Théariens.
Car tu es bien un modèle d'obéissance, Meilan. Comme toi, Arakom. Si je sors à cheval demain, je ne risque pas de trouver 1000 défenseurs de la pierre cantonnés à 40 lieues au sud de l'endroit où ils auraient dû être il y a déjà 2 jours s'ils marchaient vraiment en direction de Théar. Ni 2000 soldats appartenant à des maisons théariennes.
À chaque mot, le sourire des trois seigneurs pâlit. Meilan se figea, ses yeux noirs brillants, et Arakom blêmit sans qu'il soit possible de dire si c'était de peur ou de colère. Pour se donner une contenance, Toréan se tamponna le visage avec un mouchoir qu'il avait tiré de sa poche. Rand régnait sur Théar, et ce n'était pas théorique, comme en témoignait Kalandor, qu'il avait laissé fiché dans le sol du cœur de la pierre. Pour cette raison, les Théariens n'avaient pas protesté contre l'envoi dans leur pays de soldats du Cairien. Bien entendu, ils espéraient se forger de nouveaux domaines, voire des royaumes, là où Rand ne régnait pas, à savoir au Cairien pour commencer.
« Ça ne risque pas d'arriver, Seigneur Dragon, »
répondit enfin Meilan.
« De même, nous chevaucherons ensemble pour nous en assurer. »
« Ben voyons. » Dès que le seigneur pourrait en donner l'ordre, un messager filerait vers le sud et le lendemain, les soldats en question auraient levé le camp en direction de Théar. Bien, c'était déjà un résultat pour l'instant.
« Messire, j'en ai fini avec vous. Vous pouvez vous retirer. »
Après leur surprise initiale, si vite masquée que Rand aurait pu penser l'avoir imaginée, tous les seigneurs se levèrent et le saluèrent bien bas, alors que Céland et les jeunes nobles se dirigeaient déjà vers la sortie. Meilan et les autres étaient déçus. De leur point de vue, une audience avec le dragon réincarné était toujours longue et tortueuse, et elle voyait immanquablement Rand les forcer à se plier à sa volonté, qu'il s'agisse de déclarer qu'aucun théarien ne pourrait avoir de prétention sur des terres du Cairien sans avoir contracté mariage dans une maison de ce pays, de refuser d'autoriser l'expulsion des résidents de la ceinture, ou de rendre applicables aux nobles des lois qui jusque-là n'avaient jamais concerné que des roturiers. Rand suivit Céland du regard. Ces 10 derniers jours, elle n'avait pas été la première séductrice, mais la 10e, ou peut-être même la 20e. Au début, il n'était pas totalement resté de marbre. Mais quand il repoussait une belle mince comme une liane, une beauté rondelette prenait le relais, une grande remplaçant ensuite une petite, ou une blonde se substituant à une brune. Enfin, avec les kérieniennes, il valait mieux parler de châtain clair. Bref, une recherche constante du type de femme susceptible de lui plaire. Bien entendu, les promises avaient refoulé fermement les tentatrices qui essayaient de s'introduire la nuit dans ces quartiers. Fermement, certes, mais plus gentiment qu'Avienda, quand elle en avait surpris une. Pour la jeune Aiel, le droit de propriété des Lane sur Rand n'était pas une affaire à prendre à la légère. Cela dit, avec le sens de l'humour si particulier de son peuple, ça ne l'empêchait pas de prendre un malin plaisir à le tourmenter. Croyait-elle qu'il n'avait pas vu sa jubilation lorsqu'il grognait et se mettait une main devant les yeux quand elle commençait à se dévêtir pour la nuit? À vrai dire, s'il n'avait pas très vite compris à quoi il devait sa soudaine popularité auprès d'une légion de splendeur, Rand aurait fini par trouver agaçante la constante surveillance d'Avienda.
« Dame Colla Vaere »
appela-t-il. D'un calme parfait, sous sa petite tour de boucle châtaine, la haute dame s'immobilisa dès qu'elle eut entendu son nom. Même si elle n'avait aucune envie de s'attarder, contrairement au seigneur, Céland fut bien obligée de rester. Les yeux rivés sur Dame Colla Vaere, comme s'il pouvait découvrir pourquoi Rand l'avait rappelée, Meilan et Maringill furent les derniers à se retirer. Dans leur perplexité, ils ne s'étaient même pas aperçus qu'ils se tenaient côte à côte. Un beau duo de prédateurs au regard de charognard.
« Céland est une très jolie jeune femme, »
dit Rand dès que la porte se fut refermée sur les seigneurs.
mais certains hommes préfèrent une compagne plus mûre et plus expérimentée. Ce soir, quand sonnera la deuxième cloche, nous dînerons en tête-à-tête, toi et moi. J'attends avec impatience les délices de ce moment. »
Avant qu'elle ait pu dire un mot, Rand congédia d'un geste la haute dame. De toute façon, qu'aurait-elle pu objecter ? Toujours impassible, elle s'inclina cependant avec moins d'aisance que d'habitude. Quant à Céland, elle semblait stupéfiée et infiniment soulagée. Lorsque la porte se fut refermée sur les deux femmes, Rand éclata d'un rire sardonique qui écorcha ses propres oreilles. Mortellement las du grand jeu, il le pratiquait désormais sans y penser. Dégoûté d'avoir effrayé une femme, il s'était empressé d'en terroriser une autre. Cela dit, c'était un juste retour des choses. Car si des hordes de beauté étaient montées à l'assaut de Rand, c'était sur l'ordre de Dame Colavéré. Si elle fournissait une maîtresse à Rand, jeune et naïve, histoire de pouvoir la manipuler, n'aurait-elle pas enfin attaché un fil à cette si précieuse marionnette ? Mais elle avait toujours eu l'intention de précipiter une autre femme dans le lit du dragon réincarné, avec la possibilité qu'il finisse par l'épouser. À présent, elle allait transpirer à grosses gouttes en attendant que sonne la deuxième cloche. Certainement consciente d'être jolie, sinon franchement belle à se damner, elle allait se dire que Rand avait repoussé toutes les candidates parce qu'il en pensait pour les femmes plus vieilles que lui d'une bonne quinzaine d'années. En réfléchissant, elle conclurait qu'il était hors de question de repousser les avances de l'homme qui tenait le Kérienne dans son poing. D'ici au soir, devenue parfaitement docile, elle serait dans la disposition d'esprit adéquate pour cesser ce jeu ridicule. Sans compter qu'Avienda aurait sans doute tranché la gorge de toute femme présente dans le lit de Rand, il en avait plus qu'assez de devoir faire face à des légions de blanches colombes prêtes à se sacrifier pour l'intérêt supérieur de Kérienne et de Dame Colavéré. Pressé par le temps, il n'avait pas une minute à perdre avec de tels enfantillages. Et si Dame Colavéré décide que l'enjeu mérite le sacrifice de sa personne ? C'était envisageable, de la part d'une femme à la tête si froide. Dans ce cas, je la lui réchaufferai en lui flanquant la frousse de sa vie. Ce ne serait pas difficile. À chaque instant, il sentait le Saïdine comme une entité qui aurait été juste hors de son champ de vision. Et bien entendu, il captait aussi la souillure. Parfois, il se demandait si ce qu'il sentait n'était pas la vase puante déposée par le Saïdine au plus profond de lui-même. Rand s'avisa qu'il regardait Asmodéane sans la moindre aménité. L'air serein, le rejeté semblait l'étudier, comme si... Soudain, la musique reprit, légère et apaisante. Ainsi, Asmodéane pensait que le dragon réincarné avait besoin qu'on lui adoucisse les mœurs. Sans qu'on y ait toqué, la porte s'ouvrit pour laisser passer Moiraine et Gwen et Avienda, ces deux dernières en tenue à Yel, alors que Aes Sedai, qu'elle flanquait, arborait une robe bleu pâle. S'il s'était agi de Rouark, d'un autre chef encore en ville ou d'une délégation de matriarches, une promise serait venue annoncer des visiteurs. Mais ces trois-là, on les laissait entrer même quand Rand était dans son bain. Et Gwen regarda Nathael avec une grimace. Aussitôt, la musique devint moins forte, se fit un bref instant plus complexe, comme un air de danse, puis se réduisit à ce qui aurait pu être le murmure d'une tiède brise d'été. Asmodéane eut un sourire qui semblait s'adresser à son instrument.
« Je suis étonné de te voir, Egwene, » dit Rand en passant nonchalamment une jambe sur le bras de son fauteuil. « Ça fait bien 6 jours que tu m'évites, non ? M'apporterais-tu d'autres bonnes nouvelles ? Massema aurait-il mis Amador à feu et à sang en mon nom ? Où les Aes Sedai censés me soutenir ont-elles toutes adhéré à la Jeanne Noire ? Tu remarques que je ne t'ai pas demandé de qui il s'agissait, ni où elles sont, et encore moins comment tu sais ça. Je n'attends pas de toi que tu divulgues des secrets d'Aes Sedai, de matriarche, ou de je ne sais trop qui. Allons, donne-moi les miettes que tu veux bien consentir à me communiquer, et laisse-moi me demander si ce que tu omets de me dire ne risque pas de me valoir un coup de poignard pendant que je dors. »
La jeune femme ne se laissa pas démonter.
« Tu sais ce que tu as besoin de savoir, et le reste, n'espère pas que je te le dise. »
Exactement ce qu'Egwen avait déjà déclaré 6 jours plus tôt. Malgré leurs différences vestimentaires, elles ressemblaient de plus en plus à Moiraine, à Aes Sedai jusqu'au bout des ongles. Avienda, en revanche, n'avait rien de serein. Venant se camper à côté d'Egwen, elle posa sur Rand son regard vert brillant et se tint droite, comme si sa colonne vertébrale avait été en fer. Rand s'étonna que Moiraine ne se joigne pas à ses jeunes camarades. À trois, elles auraient pu le foudroyer du regard avec encore plus de conviction. Le serment d'allégeance de l'Aes Sedai était à géométrie variable, semblait-il, et les trois femmes paraissaient s'être honnêtement rapprochées depuis la dispute de Rand avec Egwene. Encore que « dispute » fût un bien grand mot, avec quelqu'un qui n'élevait jamais la voix, dont le regard ne se troublait jamais et qui, après avoir refusé une fois de répondre, n'écoutait même plus vos questions.
Que veux-tu ?
Demanda Rand.
Ces deux missives sont arrivées pour toi il y a moins d'une heure.
Dis-moi, Rain, entendant les lettres au jeune homme, son ton s'accordant parfaitement à la musique délicatement carillonnante d'Asmodéan. Rand se leva et prit les lettres, l'air soupçonneux.
Si elles me sont adressées, comment sont-elles arrivées entre vos mains ?
Dans une écriture carrée et parfaite, le nom Rand Altor figurait sur une des lettres. L'autre portait une mention au seigneur dragon réincarné, à la graphie plus fleurie, mais tout autant précise. Les deux sceaux, remarqua Rand, étaient intacts. Au second coup d'œil, il sursauta. On eût dit que la même cire rouge avait été utilisée, un sceau arborant la flamme de Tarvalon, alors que l'autre représentait une tour en surimpression sur ce que Rand identifia comme étant l'île de Tarvalon.
« Peut-être à cause de l'endroit d'où elles viennent ?»
répondit enfin Moiraine à la question de Rand.
« Et des personnes qui les ont envoyées ?»
Pas vraiment une explication, mais Rand comprit qu'il n'en saurait pas plus, sauf s'il insistait. Et même ainsi, il lui faudrait une éternité pour obtenir un résultat. En somme, l'Aes Sedai tenait sa promesse, mais à sa façon.
« Il n'y a pas de pointe empoisonnée dans les sceaux, Rand, et aucun tissage destiné à te piéger. »
Le pouce sur le sceau représentant la flamme de Tarvalon, Rand s'immobilisa. À sa grande honte, il n'avait pas songé à ces deux possibilités. Haussant les épaules, il ouvrit la missive. Une autre flamme figurait à côté de la signature, Elaïda do Avrini a Royhan, tracée d'une main pressée au-dessus des titres de la Aes Sedai.
Il est indéniable que vous êtes celui qui annonce les prophéties. Pourtant, bien des gens tenteront de vous éliminer, à cause de tout ce que vous êtes d'autre. Pour le salut du monde, ça ne doit pas se produire. Deux nations se sont agenouillées devant vous, ainsi que les sauvages guerriers Aiel, mais la puissance des trônes est un grain de poussière comparé à celle du pouvoir de l'unique. La Tour Blanche vous fournira un abri contre tous ceux qui refusent de voir la vérité. Ainsi, les Aes Sedai feront en sorte que vous viviez jusqu'à l'ultime bataille. Personne d'autre ne peut vous protéger. Une escorte d'Aes Sedai viendra vous chercher pour vous conduire à Tarvalon avec tout l'honneur et tout le respect que vous méritez. À cela, je m'engage fermement.
Elle ne me demande même pas mon avis,
lâcha Rand. Alors qu'il ne l'avait rencontrée qu'une fois, il se souvenait très bien d'Elaïda. Une femme assez dure pour que Moiraine, en comparaison, semble aussi inoffensive qu'un chaton. L'honneur et le respect qu'il méritait. Ben voyons. Et comme par hasard, l'escorte en question compterait 13 Aes Sedai. Rendant la lettre d'Elaïda à Moiraine, Rand ouvrit l'autre. Le texte était rédigé de la même main que la mention de son destinataire.
« Avec un infini respect, je sollicite humblement l'honneur de me présenter au grand seigneur dragon, que la lumière elle-même a désigné comme le sauveur du monde. Qui en ce monde ne serait pas béat d'admiration devant vous, après que vous avez conquis le Kairien en un éclair, comme vous l'aviez fait pour Théar ? Pourtant, je vous conjure d'être prudent, car votre gloire fera naître bien des jalousies, y compris dans le cœur de gens qui n'ont pas juré allégeance aux ténèbres. Ici même, au sein de la Tour Blanche, on trouve des aveugles qui ne voient pas briller votre splendeur. Oui, celle qui nous illuminera tous un jour. Cependant, sachez que d'autres personnes se réjouissent de votre avènement et seront heureuses de vous servir. Nous ne détournerons pas votre clarté à notre bénéfice. Bien au contraire, nous nous prosternerons devant vous afin de baigner dans votre lumière. Comme l'affirment les prophéties, vous sauverez le monde. Et ensuite, il vous appartiendra. J'en ai honte, mais je dois vous demander de détruire cette lettre après l'avoir lue. Car personne d'autre que vous ne doit connaître ces mots. Privé de votre protection, je me tiens nu au milieu de gens qui voudraient usurper votre puissance. Et je n'ai aucun moyen de savoir qui, dans votre entourage, vous est aussi fidèle que moi. J'ai cru comprendre que Moiraine d'Amodred était avec vous. Il est possible qu'elle vous serve avec dévotion, tenant vos paroles pour sa loi, comme moi. Mais je n'en suis pas sûr. Car je garde le souvenir d'une femme plutôt secrète et encline à comploter, à l'image de tous les Kairieniens, en réalité. Même si vous pensez qu'elle vous est entièrement dévouée, comme moi, je vous prie de garder cette lettre secrète, y compris vis-à-vis d'elle. Seigneur dragon réincarné, ma vie est entre vos mains, et je suis votre loyale servante. Alviarine Freyden.
Rand lut deux fois la lettre, n'en croyant pas ses yeux. Puis il attendit à Moiraine qu'il a parcouru d'un regard d'aigle avant de la confier à Egwene, déjà en train de lire la première avec Avienda. Moiraine avait-elle su à l'avance ce que contenait les missives ?
Une bonne chose que vous m'ayez juré allégeance, dit Rand. Avec votre manie du secret, J'aurais pu être enclin à vous soupçonner. Mais vous êtes plus franche désormais, et je m'en félicite. »
Aes Sedai ne broncha pas.
Qu'en dites-vous ?
Elle doit avoir entendu que tu as les chevilles qui enflent. »
Lâcha Egwen. Rand n'avait pas l'impression de l'avoir interrogé, mais bon.
En tout cas,
continua la jeune femme,
ça ne ressemble pas à Alviarine. C'est pourtant son écriture,
dit Moiraine.
Et toi, qu'en dis-tu, Rand ?
Je pense qu'il y a une scission à la tour, qu'Elaïda le sache ou non. Ai-je raison de supposer qu'une Aes Sedai, qui n'a pas le droit de mentir, ne peut pas non plus écrire des mensonges ?
Rand n'attendit pas que Moiraine ait acquiescé.
Si Alviarine n'était pas si obséquieuse, j'aurais eu tendance à penser qu'elles se sont unies pour m'attirer à Tarvalon. Je n'imagine pas qu'Elaïda puisse penser le quart de ce qu'écrit Alviarine. Et je ne la vois pas avoir pour gardienne une femme capable de dire des choses pareilles. En tout cas, autrement que derrière son dos.
« Tu ne vas pas faire ça !»
déclara Avienda, la lettre d'Elaïda froissée dans sa main. C'était un ordre, pas une question.
« Je ne suis pas idiot. Pas en permanence, en tout cas. »
marmonna Layel. Elle aggrava son cas en interrogeant du regard Egwen, qui réfléchit un instant puis haussa les épaules.
« Tu vois autre chose là-dedans ? »
demanda Moiraine.
« Les espionnes de la Tour Blanche, »
répondit Rand, cassant.
« Les Aes Sedai savent que je me suis rendu maître de la ville. »
Pendant 2 ou 3 jours après la bataille, les Shaido auraient intercepté tout messager allant vers le nord, à part un pigeon. De toute façon, même un cavalier qui aurait su où changer de monture, une opération très aléatoire entre le Kaerien et Tarvalon, n'aurait pas pu arriver assez vite à destination pour que ces lettres soient ici en ce jour.
« Tu apprends vite, et tu t'en tireras bien, »
dit Moiraine, avec quelque chose qui aurait pu passer pour de la tendresse.
« Que comptes-tu faire ?»«
Rien du tout, à part m'assurer que l'escorte de Laïda ne m'approchera jamais à moins d'une demi-lieue. »
13 Aes Sedai unis, même les plus faibles, pouvaient terrasser Rand, et il aurait parié qu'Elaïda n'enverrait pas ses sœurs les moins puissantes.
En outre, je n'oublierai pas que la Tour Blanche est informée de ce que je fais dès le lendemain du jour où j'ai agi. Egwen, Alviarine serait-elle une de tes mystérieuses amies ?
Voyant la jeune femme hésiter, Rand se demanda si Egwen, finalement, en avait dit plus long à Moiraine qu'à lui. Gardait-elle jalousement les secrets des Aes Sedai ou ceux des matriarches ?
Je ne sais pas,
répondit enfin Egwen. On frappa à la porte, puis Somara passa sa tête blonde dans l'encadrement.
Karakarn, Matrim Coton vient d'arriver. Il dit que tu lui as demandé de venir.
C'était vrai. Rand l'avait fait 4 heures plus tôt, en apprenant que Matt était de retour en ville. Quel serait le prétexte cette fois ? En fait, il était temps d'en finir avec les prétextes.
Vous pouvez rester,
dit Rand aux 3 femmes. Les matriarches mettaient Matt presque aussi mal à l'aise que les Aes Sedai. Devant ce trio-là, il serait déstabilisé. Bien entendu, Rand ne culpabilisa pas à l'idée d'utiliser Moiraine et les 2 autres. Après tout, n'allait-il pas utiliser Matt ?
Dis-lui d'entrer, Somara.
Matt déboula dans la pièce en souriant, comme s'il s'agissait de la salle commune d'une auberge. Sa veste verte ouverte, sa chemise à demi délacée laissait voir la tête de renard en argent qui pendait sur sa poitrine lustrée de sueur. Malgré ça, le foulard de soie noire était toujours noué autour de son cou, afin de dissimuler la cicatrice consécutive à sa pendaison.
« Désolé d'être en retard, »
dit-il.
« Mais j'ai rencontré des Kaerieniens qui croyaient savoir jouer aux cartes. »
Il tourna la tête vers Asmodéan.
« Ce type ne connaît pas un air plus gai. »« J'ai entendu dire, »
fit Rand,
« que tous les jeunes hommes capables de tenir une épée veulent se joindre à la compagnie de la Main Rouge. Talmanès et Nalessean ont toutes les peines du monde à les refouler. Et Daerid a miraculeusement doublé le nombre de ses fantassins. »
Alors qu'il s'asseyait dans le fauteuil qu'avait occupé Arakom, Matt marmonna.
« C'est vrai, une belle bande de jeunes types qui aspirent à devenir des héros. »« La compagnie de la Main Rouge, »
répéta Moiraine.
« Shenan Kalar. Un légendaire groupe de héros, oui. » Bien entendu, ses membres ont souvent changé au fil d'une guerre qui dura pas moins de 300 ans. On dit que ces héros furent les derniers à tomber sous les coups des Trollocs, car il constituait la garde personnelle d'Aemon en ce triste jour où mourut Manet Eren. Selon les légendes, une source aurait jailli à l'endroit où ils périrent, pour saluer leur bravoure. Et je crois plutôt que la source existait avant.
« Je ne sais rien de tout ça, »
dit Matt. Il posa la main sur son médaillon d'argent et sa voix s'affermit.
Des imbéciles ont déniché ce nom je ne sais où. Et depuis, tout le monde l'utilise.
Moiraine jeta un coup d'œil plein de mépris au médaillon. Bien que ses facettes ne soient pas orientées avec le bon angle, la petite pierre bleue qui pendait sur son front sembla refléter la lumière.
« Tu es très courageux, dirait-on, Matt. »
Un ton trop neutre au goût de Matt, qui se figea, attendant le pire.
« Oui, très courageux. Car il fallait l'être pour conduire Shenan Kalar sur l'autre berge de la rivière Algenia, puis au sud contre les Andoriens. Encore plus brave que ça, même. Puisque selon certaines rumeurs, tu serais parti en éclaireur tout seul. » Dalmanès et Nalesséane devant galoper ventre à terre pour te rattraper.
Et Gwen eut un soupir accablé à l'arrière-plan.
Ce n'est pas très sage pour un jeune seigneur à la tête de ses hommes. Je ne suis pas un seigneur,
lâcha Matt.
J'ai trop de dignité pour ça. Pas très sage,
reprit Moiraine comme si le jeune homme n'avait rien dit.
Mais hautement héroïque. Les chariots de l'intendance andorienne brûlés, les avant-postes détruits. Trois batailles, Matt, et trois victoires. Sans trop de pertes parmi tes hommes, alors que vous étiez en infériorité numérique.
Moiraine tendit un bras pour toucher une déchirure sur la veste du jeune homme, qui recula aussi loin que le dossier du fauteuil le lui permit.
Es-tu attiré par les batailles? Ou sont-elles attirées par ta personne? Je suis presque surprise de te voir de retour. Si on en croit les récits, en restant, tu aurais pu repousser les Andoriens de l'autre côté du fleuve Erinin. Vous trouvez ça drôle?
Grogna Matt.
Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Libre à vous d'aimer jouer le chat, et ne comptez pas sur moi pour faire la souris.
Un instant, les yeux du jeune flambeur volèrent sur Egwene et Avienda, qui écoutaient sans broncher. Puis il toucha de nouveau son médaillon. Sans doute parce qu'il s'interrogeait. La tête de renard avait empêché qu'il soit atteint par le pouvoir d'une femme en train de canaliser. Serait-elle aussi efficace contre trois? Rand n'intervint pas, se contentant de regarder son ami être préparé, sans le savoir, à ne pas lui résister quand il passerait à l'attaque. Reste-t-il autre chose dans ma vie que la nécessité? Une pensée fugitive et vite oubliée. Il ferait ce qu'il avait à faire.
Nous faisons tous ce que nous avons à faire, ainsi que le veut la trame,
dit Moiraine d'une voix cristalline comme un éclat de gel. On eût dit qu'elle faisait écho aux pensées de Rand.
Pour certains êtres, la liberté est moins grande que pour d'autres. Mais qu'importe que nous choisissions ou que nous soyons choisis, ce qui doit être sera.
Matt ne semblait pas préparé du tout. Méfiant, oui, et en colère, mais pas amadoué, il ressemblait à un chat coincé dans une impasse par trois colosses. Et ce chat n'entendait pas périr sans combattre. Comme s'il avait oublié qu'il n'était pas seul dans la pièce avec les trois femmes, le flambeur allait se défendre avec panache.
« Il faut toujours que vous tiriez les ficelles des gens, pas vrai? Et si un type ne se laisse pas mener par le bout du nez, un coup de pied dans l'arrière-train fera toujours l'affaire. Par le sang et les fichus cendres! Et Gwen, ne me foudroie pas du regard. Je parle comme ça me chante. Que la lumière me brûle! Il ne manque plus que Ninévé tirant sur sa natte et Hélène pointant le menton. La fille héritière, je suis content qu'elle ne soit pas là, avec cette fichue nouvelle. Mais même si Ninévé vous prêtait la main, je ne me laisserai pas... Quelle nouvelle ?»
coupa Rand.
Et pourquoi Elaine ne devrait-elle pas l'entendre?
Matt se tourna vers Moiraine.
Quelque chose vous aurait donc échappé? La nouvelle, Matt,
insista Rand.
Morgaz est morte.
Les yeux écarquillés, Egwene poussa un petit cri, puis porta les deux mains à sa bouche. Si Moiraine murmura ce qui était peut-être une prière, les doigts d'Asmodéane ne tremblèrent pas sur les cordes de sa harpe. Rand eut l'impression que ses entrailles venaient de se déchirer.
« Elaine, pardonne-moi. »
L'écho d'une autre pensée.
« Ilyena, pardonne-moi. »
« Matt, tu es sûr de ce que tu dis ?»« Aussi sûr qu'on peut l'être sans avoir vu le cadavre. Il semble que Gaibril ait été nommé roi d'Andorre, et du Kairien tant qu'on y était. Ce serait l'œuvre de Morgaz, parce qu'en ces temps difficiles, elle aurait jugé qu'il fallait la poigne d'un homme. » Comme si quelqu'un pouvait avoir plus de poigne qu'elle. Ces Andoriens au sud d'ici ont entendu dire qu'on ne l'a plus vue depuis des semaines. Et ce sont bien plus que des rumeurs. Rand, tu en aurais tiré quelle conclusion à ma place? Le royaume d'Andorre n'avait jamais eu de souverain. Mais voilà qui est fait. Et sa reine s'est volatilisée. Gaibril est le type qui entendait faire assassiner Elaine. J'ai voulu la prévenir, mais tu la connais. Son Altesse en sait toujours plus long qu'un paysan tout crotté. Dans ce contexte, je doute que Gébril ait hésité une seconde à couper la gorge d'une reine. »
Alors qu'il ne se souvenait pas d'avoir bougé, Rand s'avisa qu'il était assis dans un des fauteuils, en face de Matt. L'air inquiète, Avienda lui posa une main sur l'épaule.
« Je vais bien, » grogna-t-il. « Inutile d'aller chercher Somara. »
La Yelle rougit, mais il s'en aperçut à peine. Elaine ne le lui pardonnerait jamais. Sachant que Ravine, Gaebril, avait Morgas sous son emprise, de peur que ce soit exactement ce que les rejetés attendaient de lui. Afin de les tromper, il avait suivi son propre chemin, finissant par poursuivre Kouladine au lieu de mettre à exécution le plan qu'il avait prévu. Bien qu'informé, il s'était concentré sur Samael, parce que celui-ci l'avait provoqué. Morgas pouvait attendre, s'était-il dit, qu'il ait anéanti le piège de Samael et éliminé le rejeté par la même occasion. À présent, Morgas était morte. La mère d'Elaine avait péri, et la fille héritière le maudirait jusqu'à la fin de ses jours.
« Laisse-moi te dire une chose, » fit Matt. « Il y a là-bas beaucoup de partisans de la reine qui ne sont pas chauds pour se battre au nom d'un roi. Trouve Elaine, Rand. La moitié de ces types te soutiendront afin de la mettre sur...
« Silence !»
cria Rand. Il tremblait tellement de rage qu'Egwene recula, Moiraine le regardant d'un œil soupçonneux. Avienda lui serra plus fort l'épaule, mais il se dégagea de son emprise et se leva. Morgas était morte à cause de sa passivité. En d'autres termes, il avait autant tenu le couteau que Ravine. Elaine.
Elle sera vengée. Ravine, Matt. C'est Ravine le meurtrier, pas Gébril, un faux nom. Même si c'est la dernière chose que je fais, je le pendrai par les chevilles. Par le sang et les fichus cendres,
lâcha Matt.
C'est de la folie,
s'écria Egwene. Elle tressaillit, consciente que c'était en somme une gaffe, mais se ressaisit.
Tu dois t'occuper de Kaerien. Les Shaido sont encore un problème. Et la lumière seule sait ce que tu comptes faire en Théar. Avec déjà deux guerres sur les bras et un pays dévasté, tu voudrais ouvrir un troisième front?
Pas une guerre. Moi, je peux être à Kaemlyn en une heure.
Un raid, pas vrai, Matt? Pas un conflit. J'arracherai le cœur de Ravine.
Avec le sentiment que de l'acide coulait dans ses veines, Rand parla comme si sa voix était une masse d'armes.
J'aimerais presque avoir avec moi les 13 sœurs de Laïda, afin d'apaiser ce salaud et de le traîner devant la justice. Pendu pour meurtre, injuste châtiment. Mais il devra se contenter de mourir de la façon que je choisirai.
Demain,
dit simplement Moiraine. Rand la foudroya du regard, mais elle avait raison. Le lendemain serait préférable. Une nuit pour laisser refroidir sa colère. Face à Ravine, il aurait besoin de son sang-froid. Pour l'instant, il brûlait de s'emparer du Saïdine comme d'une lame. Asmodéane avait changé d'air, jouant un morceau que les musiciens des rues interprétaient durant la guerre civile et qu'on continuait à entendre quand un noble kérienien passait devant eux. Le crétin qui pensait être un roi.
« Nathael, hors d'ici! Dehors !»
Le visage très pâle, Asmodéane se redressa souplement, salua et se hâta d'obéir, redoutant à l'évidence ce qui risquait d'arriver s'il traînait une seconde de trop. Enclin à pousser Rand à ses limites, il était peut-être allé un peu trop loin cette fois.
« Je veux te voir ce soir !»
dit le jeune homme tandis que le feutre ouvert ouvrait la porte.
« Sinon c'est ton cadavre que je verrai.
Les désirs du Seigneur Dragon sont des ordres. »
fit Asmodéane avec une révérence précipitée. Puis il sortit sans demander son reste. Impassible, les trois femmes dévisagèrent Rand.
« Les autres aussi, dehors !»
Matt bondit littéralement vers la porte.
« Non, pas toi. J'ai encore des choses à te dire. »
Matt s'immobilisa, soupira et toucha son médaillon. À part lui, personne n'avait bougé.
« Tu n'as pas 13 Aes Sedai, »
dit Avienda.
Mais tu disposes quand même de deux d'entre elles. Plus moi. Je n'en sais pas aussi long que Moiraine Sedai. Mais je suis aussi puissante qu'Egwene. Et tu sais que je suis familière de la danse.
Elle faisait allusion à la danse avec les lances, le nom que les Aiel donnaient à la guerre.
Ravine est à moi,
dit Rand. S'il vengeait sa mère, Elaine lui pardonnerait peut-être un peu. Enfin, probablement pas, mais ainsi, il s'en voudrait peut-être un peu moins. Pour ne pas serrer les poings, il se força à garder les mains le long de ses flancs.
« Veux-tu tracer une ligne sur le sol en le défiant de la franchir ?
demanda Egwen.
Tu songes à un combat de coq? T'est-il venu à l'idée que Ravine, puisqu'il se fait appeler roi d'Andorre, pourrait ne pas être seul? Quand tu te camperas devant lui, tu auras l'air malin si un de ses gardes te plante une flèche dans le cœur.
Rand se souvint d'avoir souhaité que la jeune femme veuille bien ne pas lui crier dessus, mais c'était en des temps tellement plus facile.
Tu crois que j'ai l'intention d'y aller seul?
En fait, il n'avait jamais pensé à emmener quelqu'un pour veiller sur ses arrières. Mais une petite voix murmurait à présent dans sa tête. Il aime attaquer par derrière ou sur les flancs. Comme si elle avait une vie propre, sa colère s'auto-alimentait, et il ne parvenait pas à réfléchir clairement.
« Pas vous deux !»
dit-il en regardant Egwene et Avienda.
« C'est trop dangereux. Moiraine pourra m'accompagner si elle veut. »
Egwene et Avienda ne se consultèrent pas du regard. Pourtant, elles avancèrent en même temps et vinrent se camper devant Rand, si près que Layel aussi dut incliner la tête en arrière pour le regarder.
« Moiraine pourra t'accompagner si elle veut. »
lâcha Egwene d'un ton glacial.
« Mais pour nous, c'est trop dangereux. »
lui fit écho Avienda, plus lave en fusion que glace en la circonstance.
Serais-tu devenu mon père? Tu t'appelles Bran Alvéré désormais? Quand tu disposes de 3 lances, en mets-tu 2 à l'écart parce qu'elles ont été fabriquées récemment?
Je ne veux pas vous mettre en danger.
Vraiment?
Fit Egwene, les sourcils froncés.
Je ne suis pas ta Gaishine,
dit Avienda avec un rictus.
Ce n'est pas toi qui décides si je dois ou non prendre des risques. Et il en sera toujours ainsi. Grave-toi ça dans la tête.
Rand aurait pu... Quoi donc? Les engluer dans un tissage de saïdine et les planter là? Comme il restait incapable de les couper de la source, elle pouvait le piéger en retour. Une situation pourrie. Tout ça parce que ces deux femmes étaient têtues comme 10 mules.
« Tu as pensé aux gardes ?»
dit Moiraine.
« Mais que se passera-t-il si ces mirages ou Graendal sont avec Ravine? Ou encore Lanfear? Egwene et Avienda peuvent dominer un de ces 4 rejetés. Mais tout seul, crois-tu pouvoir faire face à Lanfear et Ravine ?»
Rand avait nettement entendu quelque chose dans le ton de l'Aes Sedai quand le nom Lanfear était sorti de ses lèvres. Craignait-elle, si la fille de la nuit était là, qu'il se range de son côté? Si ça se présentait, que ferait-il? Que pourrait-il faire?
« Elles peuvent venir, »
lâcha Rand.
À présent, voulez-vous bien vous retirer, toutes les 3 ?»«
À vos ordres, Seigneur Bragan, »
dit Moiraine. Mais aucune des 3 femmes ne parut pressée d'obéir. Malicieuses, Egwene et Avienda prirent le temps de réajuster leur châle avant de se diriger lentement vers la porte. Les seigneurs et les dames pouvaient bien sauter quand Rand disait « grenouille », mais certainement pas elle.
« Vous n'avez pas tenté de me dissuader d'agir, »
dit Rand. À l'intention de Moiraine, mais ce fut pourtant Egwene qui répondit, en s'adressant à Avienda et avec un sourire entendu.
« Empêcher un homme de faire ce qu'il veut, c'est comme prendre un bonbon à un enfant. Parfois c'est nécessaire, mais le plus souvent, le jeu n'en vaut pas la chandelle. »
Layel acquiesça gravement.
« La roue tisse comme elle l'entend, »
dit simplement Moiraine. Debout dans l'encadrement de la porte, elle ressemblait plus que jamais à l'archétype d'une Aes Sedai. Le visage sans âge, ses yeux noirs semblant vouloir engloutir Rand, cette petite femme frêle aurait pu imposer sa volonté à une salle de bal remplie de reines, et ce même si elle avait été incapable de canaliser un filament de pouvoir. Et la pierre bleue sur son front reflétait de nouveau la lumière.
« Tu t'en tireras très bien, Rand. »
Le jeune homme regarda fixement la porte longtemps après qu'elle se fût refermée sur les 3 femmes. Un discret grincement de bottes lui rappela la présence de Matt, qui tentait discrètement de gagner la porte, histoire de s'éclipser.
« Je dois te parler, Matt. »
Le flambeur fit la grimace. Après avoir touché sa tête de renard comme si elle était un porte-bonheur, il se tourna vers Rand.
« Si tu crois que je vais mettre mon cou sur le billot parce que ces femmes viennent de le faire, tu te fourres le doigt dans l'œil. Je ne suis pas un fichu héros, et je ne veux pas en être un. Morgaz était une jolie femme, et je l'avais même à la bonne, autant que c'est possible avec une reine. » « Mais Ravine, eh bien c'est Ravine, que la lumière te brûle, et je... »« Ferme-la et écoute-moi. Tu dois cesser de fuir. Si je le fais, que la lumière me carbonise. Je n'ai pas choisi de jouer cette partie, et je t'ai dit de la fermer. »
Du bout d'un index, Rand enfonça la tête de renard dans la chair de Matt.
« Je sais où tu as eu ce médaillon. Tu n'as pas oublié, j'étais là. et c'est même moi qui ai coupé la corde à laquelle tu pendais. Je ne sais pas exactement ce qu'on t'a fourré dans le crâne, mon vieux, mais j'ai la certitude d'en avoir besoin. Si les chefs Aiel sont de bons stratèges, tu es doué aussi. Et peut-être davantage qu'eux. Et ton savoir est précieux pour moi. Donc voilà ce que vous allez faire, la compagnie de la Main Rouge et toi.
Demain, vous devrez être prudente,
dit Moiraine. Et Gwen s'immobilisa devant la porte de sa chambre.
Bien sûr que nous le serons,
dit-elle, l'estomac noué mais la voix à peu près sereine.
Nous savons à quel point il est dangereux d'affronter un des rejetés.
À voir l'expression d'Avienda, la conversation aurait tout aussi bien pu tourner sur le menu du soir. Mais Laiel n'avait jamais peur de rien.
« Vous le savez, vraiment ?»
murmura Moiraine.
« En tout cas, soyez sur vos gardes.
Que vous pensiez ou non qu'il y a un rejeté pas loin de vous.
Dans les jours à venir, Rand aura besoin de vous deux. Bien que vos méthodes soient fort peu orthodoxes, vous vous en tirerez bien avec son caractère volcanique. Il aura besoin de gens que ses colères n'effraient pas, et qui sachent lui dire ce qu'il doit entendre, pas ce qu'il a envie de se faire raconter. C'est exactement ce que vous faites, Moiraine,
dit Egwen.
Bien sûr, mais il aura quand même besoin de vous. Reposez-vous bien toutes les deux. Demain sera une journée difficile pour tout le monde.
Aes Sedai s'éloigna d'un pas léger dans le couloir, passant d'une zone d'obscurité à une flaque de lumière pour sombrer de nouveau dans la pénombre. Dans ces corridors, la nuit envahissait vite tout, et les réserves d'huile de lampe n'étaient pas inépuisables.
Tu restes un moment avec moi, Vienda ?
Demanda Egwen.
J'ai plus envie de parler que d'aller manger. Je dois informer Amis de ce que je me suis engagé à faire demain, et être dans la chambre de Randall Thor quand il viendra se coucher. Au moins, Elaine ne pourra pas se plaindre que tu n'aies pas gardé un œil sur lui. As-tu vraiment tiré Dame Berewyn par les cheveux sur toute la longueur du couloir ?
Avienda rosit à peine.
Tu crois que les Aes Sedai de Salidar aideront Rand ? Fais attention quand tu parles de Salidar, mon ami. Rand ne doit pas pouvoir les rencontrer sans un minimum de préparation.
Considérant la façon dont il se comportait pour l'instant, les sœurs auraient sûrement envie de l'apaiser, ou au moins de lui envoyer 13 d'entre elles, plutôt que de le soutenir. Dans le monde des rêves, Ninévé et Gwen et elle devraient servir d'intermédiaires et espérer que ces Aes Sedai se soient trop engagés sur le chemin de la dissidence pour reculer lorsqu'elles découvriraient à quel point Rand était proche de la folie.
« Je ferai attention. Repose-toi bien, Egwen. Et nourris-toi, surtout. Je veux dire ce soir. Demain matin, n'avale rien. Danser avec les lances l'estomac plein n'est pas une bonne chose. »
Et Gwen regarda son amie s'éloigner. Les deux mains pressées sur son ventre, elle doutait de pouvoir avaler quelque chose, que ce soit le soir même ou le lendemain matin. Ravine. Et peut-être Lanfear ou un des autres rejetés. Ninévé avait affronté Mogedien et gagné. Mais quand elle pouvait canaliser, l'ancienne sage-dame était plus puissante qu'Avienda et elle. Cela dit, il n'y aurait peut-être pas d'autres rejetés. Selon Rand, ces gens ne se faisaient pas confiance. Pour être franche, elle aurait presque espéré qu'il se trompe, ou en tout cas, qu'il ne soit pas si sûr de son fait. Savoir qu'un autre homme regardait à travers les yeux de Rand et parlait par sa bouche la terrifiait. En un sens, c'était absurde, puisque tout le monde se réincarnait au gré des rotations de la roue. Mais tout le monde n'était pas le dragon réincarné. Moiraine ne voulait pas évoquer ce sujet, mais que ferait Rand si Lanfear était avec Ravine ? La fille de la nuit avait aimé Lusterine Telamon, mais lui, qu'éprouvait-il pour elle ? Et dans quelle mesure Rand était-il encore Rand ?
« Si tu continues comme ça, »
dit Egwen à haute voix,
« c'est toi qui deviendras folle. Tu n'es plus une enfant, alors comporte-toi comme une femme. »
Lorsqu'une servante lui apporta le dîner, des haricots, des pommes de terre et du pain frais, Egwen se força à manger, même si elle trouva un goût de cendre à tout ce qu'elle avala. Après avoir remonté au pas de charge les couloirs mal éclairés du palais, Matt ouvrit la porte de la suite qu'on avait affectée aux jeunes héros de la bataille contre les Shaido. Non qu'il ait passé beaucoup de temps dans ses appartements, à dire vrai, il les avait à peine occupés. Des domestiques attentionnés avaient allumé deux des lampes sur pied. Un héros, lui ? Combien de fois faudra-t-il qu'il répète que ce n'était pas le cas ? De toute façon, ça rapportait quoi d'en être un ? Se faire tapoter le crâne par une Aes Sedai, avant qu'elle vous fiche dehors comme un chien avec ordre de recommencer à héroïser ? Être embrassé par une noble dame du bout des lèvres ? Savoir qu'elle viendrait fleurir votre tombe ? Sans s'attarder pour une fois sur la beauté des tapis ilianiens, des chaises, des coffres et des guéridons dorés ou incrustés d'ivoire, Matt entreprit de faire les 100 pas dans l'antichambre de son fief. Son entretien houleux avec Rand avait duré jusqu'au coucher du soleil. Sur la défensive, il avait multiplié les esquives, mais le fichu dragon lui avait collé au basque, le harcelant avec autant d'insistance qu'Arthur Aldefaucon après la déroute de la passe de Cole. Que devait-il faire? S'il filait de nouveau à cheval, Talmanès et Nalesséan, convaincus qu'il les guidait vers la gloire d'une nouvelle bataille, le suivraient avec tous les hommes capables de tenir en selle. Et ce serait probablement ce qu'il ferait. C'était bien ça le plus effrayant de tout. Même s'il détestait l'admettre, l'Aes Sedai avait raison. Il était attiré par les batailles, à moins que ce soit l'inverse. Sur l'autre berge de la rivière Alguenia, personne n'aurait pu avoir plus envie que lui d'éviter les ennuis. Talmanès lui-même s'en était aperçu. Mais la deuxième fois où il avait tenté une manœuvre furtive pour éviter les Andoriens, cette initiative l'avait entraîné à un endroit où il avait bien été obligé de se battre contre d'autres Andoriens. À chaque occasion, il avait entendu les dérouler dans sa tête. Désormais, c'était quasiment un signal que ça allait bientôt chauffer. À part les barges qui transportaient du grain, il devait bien y avoir un bateau digne de ce nom à quai. Au milieu d'un cours d'eau, sur un bateau, il semblait difficile d'être rattrapé par la guerre. Sauf que les Andoriens, en aval de la ville, tenaient une berge de la rivière sur plus de la moitié de sa longueur. Avec les tours de cochon que lui jouait sa chance, une longue série de pépins en fait, son bateau risquait de s'échouer sur la mauvaise rive, là où campait la moitié de l'armée d'Andorre. Bref, il ne lui restait plus qu'à faire ce que Rand lui avait demandé. Il voyait venir ça gros comme une maison.
« Bien le bonjour, seigneur Wyramon. Et vous, tous les autres hauts seigneurs et hautes dames, je suis un flambeur, un paysan, et je viens prendre le commandement de votre armée de malheur. Le fichu dragon réincarné viendra nous rejoindre dès qu'il aura fini de régler une petite affaire sans importance. »
Matt prit sa lance à hampe noire, appuyée au mur dans un coin, et la propulsa à travers la pièce. Elle traversa une tapisserie, une scène de chasse, et percuta le mur derrière avec un bruit sourd. Puis elle tomba sur le sol, laissant les pauvres chasseurs proprement coupés en deux. En éructant des jurons, Matt courut ramasser l'arme. La longue lame qui lui servait de fer n'était pas émoussée. Quoi d'étonnant, puisqu'il s'agissait d'une création des Aes Sedai.
Serais-je un jour libéré des sombres œuvres des Aes Sedai ?
Demanda-t-il à voix haute en passant un index sur les corbeaux qui ornaient la lame.
Que s'est-il passé ?
Demanda Melindra, qui venait d'entrer. Tout en reposant la lance contre un mur, Matt regarda la jeune femme. Et pour une fois, ça ne l'incita pas à penser à de fins cheveux blonds, à de beaux yeux clairs, ni à un corps délicieusement ferme. Tous les aïels, tôt ou tard, allaient voir la rivière pour contempler une si grande quantité d'eau dans un si petit endroit. Mais Melindra s'y rendait presque tous les jours.
Cadéré a-t-il trouvé des bateaux ?
Le colporteur n'était pas homme à gagner Tarvalon sur des barges.
Ces chariots sont toujours là. Je ne sais rien au sujet des bateaux.
Un mot peu familier que l'aïel avait du mal à prononcer.
Que veux-tu savoir ? Je vais m'absenter un moment, sur ordre de Rand.
Une précision utile, avoir le visage fermé de la guerrière.
Je t'emmènerai volontiers, mais tu ne voudras jamais quitter les promises.
Alors, un bateau ou à cheval ? Et pour aller où ? Toute la question était là. Sur un navire rapide, il atteindrait Théard plus vite qu'en chevauchant Pépin. S'il était assez idiot pour choisir cette option. En supposant qu'il en ait une autre. Mais Melindra eut une moue dépitée. Bizarrement, ce n'était pas qu'il la quitte qui la désolait.
Ainsi tu retournes dans l'ombre de Randaltar. Pourtant, tu t'es couvert de gloire et d'honneur auprès des Aiel et des hommes des terres mouillées. Ton honneur, pas le reflet de celui du Karakarn. Rand peut garder son honneur et l'emporter à Kaemlyn, ou au fond de la fosse de la perdition, pour ce que ça m'intéresse. Ne t'en fais pas. Je me couvrirai encore d'honneur. Je te raconterai tout par écrit quand je serai à Théard.
Théard ? S'il faisait ce choix, il n'échapperait jamais à Rand ni aux Aes Sedai.
Il va à Kaemlyn ?
Matt réprima une grimace. Il n'était pas censé clamer partout ces choses-là. Quoi qu'il décide pour le reste, il devait faire au moins ça.
Le nom m'est venu comme ça. Sans doute à cause de ces fichus andoriens au sud. En fait, je ne sais pas où...
Il n'y eut aucun avertissement. Soudain, le pied de Melindra décolla du sol et vint percuter le ventre de Matt, le forçant à se plier en deux, le souffle coupé. Les yeux exorbités, il lutta pour rester debout et reprendre sa respiration. Pourquoi cette attaque ? Virevoltant comme une danseuse, Melindra lui décocha un nouveau coup de pied, sur la tempe cette fois. Elle doubla le coup, visant l'autre côté de sa tête. Lorsque sa vision lui revint, Matt constata qu'il était étendu sur le dos à 5 ou 6 pas de la Yael. Alors qu'il sentait un liquide chaud couler sur ses joues, sa tête lui paraissait remplie de coton et la pièce semblait tourner autour de lui. Puis il vit la guerrière sortir de sa sacoche de ceinture un couteau à la lame pas plus longue que sa main. Ensuite, elle enroula son choufa autour de sa tête et releva son voile noir. Bien que sonné, Matt réagit d'instinct. Un couteau jaillit de sa manche, puis fendit l'air au ralenti comme s'il traversait une muraille de gelée. Quand il comprit ce qu'il venait de faire, le jeune homme tendit le bras, tentant désespérément de rattraper l'arme. Le manche dépassait déjà d'entre les seins de Melindra. Tout d'abord à genoux, elle bascula en arrière. Matt n'aurait pas pu se lever si sa vie en avait dépendu. Mais ramper, il en était encore capable.
« Pourquoi ? Pourquoi ?»
lança-t-il en avançant vers sa compagne. Il écarta le voile et deux yeux bleu clair se rivèrent sur son visage. Melindra sourit. Évitant de baisser les yeux sur son arme, il savait où se trouvait le cœur chez un être humain, Matt murmura.
« Pourquoi, Melindra ? J'ai toujours aimé tes jolis yeux. »
Un souffle presque inaudible.
« Pourquoi, Melindra ? Certains serments sont plus importants que d'autres, Matt Cotton. »
Mobilisant sa dernière force, la Yael leva vivement son couteau, la pointe se plaquant sur le médaillon d'argent de Matt. Le bijou n'aurait pas suffi à dévier une lame, mais à cause de l'angle d'attaque pas assez franc, et peut-être d'un infime défaut dans l'acier, celle de Melindra se cassa net au niveau du manche.
« Tu as la chance du grand seigneur. Pourquoi ? Que la lumière te brûle, pourquoi ?»
Matt comprit qu'il n'obtiendrait pas de réponse. Si sa bouche restait ouverte, les yeux de la Yael se voilaient déjà. Le jeune homme voulut remettre le voile en place pour cacher le visage et surtout les yeux de la morte, mais il n'alla pas au bout de son geste. Il avait tué des trollocs et des hommes, mais jamais une femme. Jusqu'à ce jour. Quand il entrait dans leur vie, les femmes se réjouissaient. Ce n'était pas de l'avantardise. Elles lui souriaient, et même quand il les quittait, elles souriaient encore, comme pour dire qu'il serait toujours le bienvenu. C'était tout ce qu'il demandait à la vie, s'agissant des femmes. Un sourire, une danse, un baiser, et occuper une place à part dans leurs souvenirs. Conscient que ses pensées déraillaient, Matt fit sauter le manche sans lame de la main de Melindra, un manche de jade rehaussé d'or et incrusté d'abeilles dorées, puis le lança dans la cheminée en espérant qu'il explose en 1000 morceaux.
« Je ne tue pas les femmes, moi. Je les embrasse et... »
Alors qu'il avait envie de pleurer ou de crier, Matt se força à raisonner froidement. Pourquoi cette attaque ? Pas parce qu'il partait, puisque Melindra avait à peine bronchi en l'apprenant. De plus, elle pensait qu'il s'en allait en quête d'honneur, et elle l'avait toujours encouragé dans ce sens. Soudain, certains mots qu'elle avait prononcés lui revinrent à l'esprit. La chance du grand seigneur. Il y avait une expression très proche et qu'il avait entendue plus d'une fois. La chance du ténébreux.
Melindra, un suppôt des ténèbres ?
Poser la question, ça revenait à y répondre. Le savoir allait-il aider à mieux supporter ce qu'il venait de faire ? Non, il garderait jusqu'à sa mort le souvenir de ce visage. Théar. Il avait en un sens claironné qu'il allait dans cette ville. Le couteau. Du jade et des abeilles dorées. Sans regarder, il aurait parié qu'il y en avait 9. Les armes de Liliane où régnait Samael. Se rejeter avait-il peur de lui ? Mais comment pouvait-il savoir ? Quelques heures s'étaient écoulées depuis la demande de Rand, enfin l'ordre plutôt, et il n'avait pas encore décidé ce qu'il ferait. Samael ne voulait peut-être pas courir le risque. Ben voyons. Un des rejetés effrayé par un vulgaire flambeur ? Quel que soit le génie stratégique dont sa tête était farcie ? Ridicule. C'était la croisée des chemins. Il pouvait croire que Melindra n'était pas un suppôt des ténèbres et qu'elle avait décidé de le tuer sur un coup de tête. Pareillement, il pouvait se persuader qu'il n'y avait aucun rapport entre un manche de jade incrusté d'abeilles dorées et son possible départ pour Théar, avec la mission de lever une armée qui attaquerait Liliane. Oui, il pouvait croire ça, s'il était un crétin congénital. Dans le doute, disait-il toujours, mieux valait pencher vers la prudence. Un des rejetés l'avait bel et bien repéré, et il n'était plus du tout dans l'ombre de Rand. Glissant sur le parquet, il réussit à s'asseoir, s'adossa à la porte et posa le menton sur ses mains. Puis il regarda le visage mort de Melindra en essayant de décider ce qu'il allait faire. Quand une domestique, de l'autre côté du battant, annonça qu'elle lui apportait son dîner, il la renvoya sans ménagement. L'idée de manger ne l'avait jamais aussi peu intéressée. Que devait-il faire? Et qu'aurait-il donné pour ne pas entendre les dés rouler dans sa tête ?